Écho d'économie.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce dernier numéro Écho d'économie de la semaine sur Radio Capi. Le délabrement des routes nationales ne facilite plus les transactions commerciales entre la province de l'Ituri avec les autres provinces du pays et les pays voisins. La société civile qui le dénonce attribue cette situation au coulage de recettes de plusieurs millions de dollars américains de pillage de routes chaque année dans cette province par le Fonds national d'entretien routier FONER. La production du thé dans la partie sud de la province du Nord-Kivu est à l'arrêt depuis 1998. L'invité de l'économie qui le dit est à écouter avant la fin de ce numéro de Écho d'économie sur votre radio. Voilà pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons Écho d'économie par la province de l'Ituri où le fonds d'entretien routier FONER est accusé de favoriser le coulage de recettes de plusieurs millions de dollars américains de péage route chaque année dans la province de l'Ituri, ce qui a comme conséquence le délabrement des routes nationales qui ne facilite plus les transactions commerciales entre l'Ituri avec les autres provinces du pays et les pays voisins. Cette dénonciation est faite par la coordination de la société civile qui affirme avoir adressé une lettre ouverte à la hiérarchie de ce service étatique pour des éclaircissements. Isaac Raymond.
Selon les rapports de la société civile, les bureaux des FONER en Ituri sous-évaluent les frais des péages réalisés chaque mois aux différents postes frontaliers. Son président cite les cas des Mahagi où ses membres ont enregistré en février dernier 577 camions transportant des marchandises à provenance de l'Ouganda qui ont payé leurs redevances fixées à environ 3000 dollars pour chaque véhicule. Selon les enquêtes menées par cette structure, 19 camions seulement ont été enregistrés par ces services, ce qui entraîne un manque à gagner de plus de 20 millions de dollars par an au niveau de ces seuls postes douaniers. Dieudonné Lossa.
Nous sommes partis des cas de FONER du mois de février 2024 pour confirmer qu'il y a coulage de recettes à Ituri. Seulement 19 camions sur 577 attrait par Mahagi ont payé régulièrement, soit 58 900 dollars. Si nous considérons 577 camions par mois, déjà avec cela, pour toute l'année, la province de l'Ituri perd 21 405 500 dollars pour l'année.
Ce coulage des recettes a des conséquences sur l'économie locale où toutes les routes nationales 4, 27 et 44 qui relient les provinces de l'Ituri, Tchopo, Nord Kivu et Otuele sont délabrées, ce qui ne facilite pas les transports des marchandises et des vivres dans les grandes agglomérations, précise la société civile. Nous n'avons pas encore la réaction de la direction provinciale des FONER. Bounia, Isaac, Remoyope, Radio Capi.
Au moins 5500 tonnes d'engrais sont disponibles pour être remises gratuitement aux agriculteurs de l'Interland de Kinshasa. Le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, a présidé mercredi au siège du programme national du riz à Kinshasa-Njili la cérémonie de distribution d'engrais aux structures agricoles enregistrées au budget d'intervention économique 2024. Écoutons les explications du ministre de l'Agriculture dans cet extrait que nous propose Jocelyne Moussa Opondé.
Il faut mettre toutes les conditions possibles pour qu'on arrive à bon produit. Chers partenaires, vous avez été retenus pour que ceux qui bénéficieront de ces dons gratuitement, on ne va pas vous vendre ça, les engrais sont distribués gratuitement aux partenaires. Et quand vous aurez eu ces dons, faites un effort pour que vous puissiez produire mieux que ce que vous avez fait hier. Parce que si chacun de nous, paysans, partenaires, arrivait à produire chacun ne fût-ce qu'un hectare, nous allons pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et même avoir la possibilité d'une production nationale suffisante, pourquoi pas arriver à faire des réserves et nourrir les 9 frontières qui contournent la RDC. Je voudrais insister sur le caractère gratuit de ces engrais, mais également insister sur une meilleure utilisation quand vous allez les pendre et nous ferons tout pour que chacun des partenaires puisse avoir une quantité suffisante en fonction de ce que nous avons.
Et il est bon de savoir que selon la coordination du Service national des fertilisants et intrants connexes, structure chargée de la distribution de ce lot de 5500 tonnes d'engrais. Seuls 4% des ménages utilisent les engrais fertilisés en RDC, alors qu'au sommet des chefs d'État sur les engrais et la santé des sols, il est exigé l'utilisation de 50 kg d'engrais par hectare. La moyenne d'utilisation d'engrais en Afrique est de 18 kg l'hectare. Et en RDC, c'est au moins 6 kg d'engrais seulement qui sont utilisés par hectare, soit un déficit de 44 kg, ce qui ne permet pas de produire assez malgré des grandes étendues de terres dont disposent l'Afrique et la RDC. Autre chose. L'AGECAMINE n'est pas d'accord avec la démarche de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'ARESP. C'est notamment après que l'ARESP ait recommandé des sociétés sous-traitantes à Tenkifungurume Mining. L'AGECAMINE, actionnaire dont TFM, fustige le fait qu'elle ait été exclue de ce processus de recommandation alors qu'elle a un accord transactionnel avec TFM sur notamment des questions de sous-traitance. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizinabizala.
Ce grincement des dents de l'AGECAMINE est contenu dans un courrier qui nous est parvenu ce vendredi 24 mai. La lettre signée entre autres par le directeur général de l'AGECAMINE est adressée au président du groupe CEMOC, géant mondial du cuivre, qui détient Tenkifungurume Mining, en recommandant la vingtaine d'entreprises sous-traitantes à TFM, mine de cuivre de classe mondiale. L'AGECAMINE reproche à l'ARSP de s'arroger de ses charges en tant qu'actionnaire à hauteur de 20%. Conséquence, la société publique congolaise dit ignorer le contenu des entendements convenus entre l'ARSP et TFM, surtout poursuit-elle qu'elle n'a pas été associée à cette démarche, tout comme le ministère de portefeuille. Sa direction générale rappelle avoir conclu en mars dernier un accord portant sur un cadre d'échange avec l'ARSP. Objectif, discuter sur toutes les problématiques liées à la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application en vue de leur prise en compte dans les sociétés issues de joint venture créées entre l'AGECAMINE et ses partenaires. Pour l'heure, l'ARSP n'a pas encore répondu à cette opposition de l'AGECAMINE. Pour rappel, la Fédération des entreprises du Congo était également contre cette démarche de recommandation initiée par l'ARSP qui ne favorise pas une concurrence loyale selon le patronat congolais.
Écho d'économie. Voici à présent l'invité de l'économie. La production du thé dans la partie sud de la province du Nord Kivu est à l'arrêt depuis 1998. Des plantations abandonnées et des usines complètement pillées. Cette situation est consécutive à la guerre continue que connaît la province. Ainsi, les opérateurs économiques se tournent vers les pays frontaliers, ce qui constitue un manque à gagner énorme pour l'État congolais, déplore un responsable qui gère cette filière, Jean Chrysostome Ndjakemala, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Nord Kivu, nous parle de cette filière. C'est lui l'invité de l'économie et cela s'inscrit dans la suite de notre série de reportages à l'occasion de la Journée mondiale du thé célébrée le 21 mai de chaque année. L'invité de l'économie, son 31 avec Denise Lukeso.
Monsieur le directeur, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Au Nord Kivu, quel état des lieux de la culture du thé que vous faites?
Aujourd'hui, l'exploitation du thé, c'est un peu difficile dans notre secteur de l'ONAPAC Goma, parce que les exploitations de thé qui existaient, c'était dans les territoires de Masisi et une petite partie ici à Rutshuru. Et avec l'insécurité qui sévit actuellement dans cette région, presque toutes les usines ont été démontées. Et quand il n'y a pas des usines, vous savez que lorsqu'on récolte des thés, dans quelques heures, vous devez amener ces thés-là dans des usines pour la transformation. Mais malheureusement, toutes ces usines ont été d'abord démontées, pillées, et les plantations sont restées abandonnées et qu'aujourd'hui, un jour d'aujourd'hui, en tout cas, dans notre secteur, là où nous contrôlons, c'est difficile. Mais néanmoins, nous enregistrons les thés qui nous proviennent de la province du Sud Kivu, là où il y a un peu des opérateurs économiques qui exploitent, mais difficilement les thés, et pour les amener à Kinshasa. Ici, sur place à Goma, nous avons des mamans qui se débrouillent, ils vont dans le Sud Kivu, pour acheter du thé et les amener ici pour la consommation locale. Dans le petit nord ici, on est devenu seulement une région où les gens consomment le thé. Et ce thé provient non seulement du sud Kivu, mais aussi du Burundi.
Mais cela est comme qui dirait, aujourd'hui, la culture du thé n'est plus pratiquée dans la partie sous votre gestion, donc la partie petit nord de la province.
Non, non. Cette situation nous handicape surtout dans les fonctionnements même de notre secteur. Vous savez que nous, ici à l'ONAPAC, nous sommes un secteur qui devrait générer des ressources et fonctionner. Mais pour le moment, on est vraiment paralysé suite à cette guerre.
Et c'est depuis quelles années que la production du thé s'est arrêtée dans la province du Nord Kivu?
C'est vers les années 97. 98, parce que là, quand la première rébellion est arrivée, en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes. Et surtout, avec la deuxième rébellion dans la province, en tout cas, toutes ces usines sont parties. Et même l'Office national des produits agricoles du Congo avait une petite usine à Mouessou, mais c'est maintenant occupé, donc on ne peut même plus. Donc aujourd'hui, je pense que c'est encore plus pire. Donc c'est vers les années 97-98 que l'exploitation du thé s'est arrêtée dans la partie où nous contrôlons.
Les jardins théicoles de Ngueri, qui était une grande vaste concession où l'été était exploité, et réputé pour la culture, la production et la transformation du thé. Aujourd'hui, quel état de lieu de cette société que vous faites?
À un certain moment, un opérateur économique de la place, c'est lui qui exploitait ça, mais actuellement, avant même les hostilités, en tout cas la production n'était plus visible. Aujourd'hui, l'usine qui était là, c'est obsolète. Avant les années 96, la production était de 60 à 70 tonnes par trimestre, donc plus ou moins 240 tonnes par an. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit ici, que c'est arrêté, ils ne font plus ça.
Même pas une tonne?
Non, même pas, parce que comment aller faire? Parce que vous savez que ce n'est pas rentable. On ne peut investir ou travailler que lorsque vous savez que vous allez gagner.
Comme qui dirait que toutes les usines de production, de transformation du thé au nord qui vous, dans non, la partie nord, ont déjà fermé?
Oui, oui, presque. Il y avait deux ou trois usines, mais toutes ces usines ont été fermées.
Et comment vous comparez le goût du thé ou la teneur du thé du Nord Kivu par rapport au thé que nous importons aujourd'hui?
La différence, c'est que, vous savez, ici en République du Congo, plus particulièrement les produits sous contrôle de l'ONAPAC, c'est-à-dire les produits agricoles pérennes d'exportation, nous, on n'admet pas les engrais chimiques ou introduit des engrais chimiques dans la production. Nous faisons l'agriculture bio et souvent notre thé est de qualité supérieure.
Monsieur Chrysostome, Radio Capi, vous remercie.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie, madame.
Merci, monsieur Jean Chrysostome Ndjaki Mala, et merci à vous, Denise Lukeso. Aussi, grand merci et surtout, bon début de semaine à vous, chers auditeurs. Merci pour votre attention particulière à ce dernier numéro de Écho d'économie de la semaine sur votre radio. Ce numéro est à réécouter au plaisir et en continu sur www.radioocapi.net.